RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec notre chamois à nous. Et oui, celui qui va se mettre au trail petit à petit, c'est Yoann Durand. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît. Ça roule ?
Ça te va bien le chamois ? C'est vrai que tu ressembles à un chamois.
Oui. Oui, alors là, le chamois, il gambade pas, il saute pas de pierre en pierre pour l'instant. Hein.
Non.
C'est plutôt un chat domestique.
Exactement, il faudra que tu prennes des conseils.
Canapé, tu vois, pour l'instant.
Faut en prendre conseil auprès de notre invité du jour. Exactement. Merci à tous pour le soutien sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Strava, les comptes RMC Running, les énormément de beaux projets qui vont arriver à la rentrée. Donc soyez connectés parce que ça va être fantastique. Mais surtout, aujourd'hui, on est ravis de mettre à l'honneur une méga star du trail dans le monde et en France. Il est français, messieurs, dames. On va recevoir Vincent Bouillard, vous le savez. C'est notre trailer qui était vainqueur de l'UTMB en 2024 et qui a récidivé, cette fois-ci sur la Western States. Une course mythique, un des trails majeurs, un ultra majeur dans le monde. C'est le premier français à avoir remporté cette Western States et avec le record de l'épreuve qui plus est. On est ravis d'accueillir Vincent dans un instant. Donc enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running. Il est avec nous, Vincent. Il est rentré des États-Unis. Il a retrouvé Annecy et sa région qu'il adore. Salut Vincent.
Salut Benoît, salut Yoann, salut à toutes et à tous.
Bon, comment tu vas alors ? Tout va bien ?
Ouais, ça va. Écoute, ça fait du bien de rentrer. On avait un long voyage, à la fois famille, un peu boulot, et puis entraînement et compète, bien sûr. Donc c'était super, mais ça fait toujours plaisir de rentrer. Ouais.
Ah bah oui, surtout après un moment comme celui-là, on va parler de tout ça. Tu vas nous raconter ta course, tu vas nous parler des différences entre cette victoire et celle de l'UTMB. Déjà Yodu, toi, est-ce que tu es impressionné par la perf une nouvelle fois, monsieur 3 sur 4, parce que c'est le roi de l'ultra désormais, Vincent Bouillard. Quand il s'aligne, souvent il gagne. Il y avait eu cet abandon en 2025 dont on va parler, mais quand il est là et qu'il franchit la ligne d'arrivée, souvent il est pas loin, Vincent, quand même, Yodu, c'est impressionnant.
Ben ouais, effectivement, hein, comme tu l'as dit, après son exploit de l'UTMB en 2024, il était apparu aux yeux du grand public. Et là, il confirme, parce que comme tu l'as dit, il n'y a aucun Français qui avait remporté la Western. Et puis, moi, c'est le chrono qui me... Qui m'épate, parce que c'est un chrono. Quand tu bats le record de l'épreuve et que tu es le premier Français à t'imposer et que tu es devant en termes de chrono, des cadors. Alors après, c'est souvent compliqué parce que les conditions météo font que le vent, l'altitude, la pluie, le soleil, la chaleur, la température, tout est différent. Donc d'une année à l'autre, tu peux pas trop comparer. Mais malgré tout, voilà, la gagner et battre le record, c'est un grand exploit. Et du coup, ça confirme tout à fait que c'est l'un des meilleurs trailers en France. Ouais.
Je rappelle les données de la Western, c'est 161 km, 5500 de dénivelé positif entre Olympic Valley en Californie et la piste d'un lycée d'Auburn. Particulier pour toi, Vincent, parce que la Californie, tu connais bien, tu y as vécu 3 ans, c'est là que tu as découvert un peu la passion des randos et du trail. Gagner là-bas, ça a une place particulière dans ton cœur, j'imagine, Vincent.
Ouais, tout à fait. Ouais, ben j'ai pas découvert le trail. Je pense que j'ai eu la chance en grandissant à Annecy d'avoir un peu baigné dedans depuis petit. Mais en tout cas, c'est clair que la Western States, je connaissais pas aussi bien avant d'y mettre les pieds et de comprendre l'engouement qu'il y a autour de cette épreuve dans le petit microcosme du trail aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc ça, bien sûr, c'est encore plus, ça a encore plus de saveur, c'est encore plus spécial de pouvoir faire cette course déjà, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est une course où il y a pas beaucoup de dossards.
Il y a moins de 400 partants. Vincent. Il y a 359, je crois, participants, qui s'élancent de la ligne de départ, quoi.
Ouais. Ouais, exactement. Ouais, il y a un peu moins de 400 coureurs, et c'est. En fait, c'est des restrictions de protection de l'environnement. Il y a la plupart des coureurs, la plupart des dossards sont attribués par tirage au sort. Et après, il y a des modalités de sélection pour les athlètes élites qui sont des courses à ce qui s'appelle Golden Ticket. Donc, il y a 5 ou 6 courses dans l'année sur format ultra qui qui donne soit aux deux premiers, soit aux trois premiers, trois premières, des qualifs automatiques. Donc ça, plus les 10 premières et 10 premiers de chaque édition sont réinvités d'une année sur l'autre. Donc ça fait, malgré le fait qu'il y ait moins de 400 coureurs, il y a quand même une densité à l'avant qui est assez importante chaque année, quoi, du fait de ce système.
Ouais. Fort,
un peu de densité à l'avant, parce qu'il y avait Jim Walmsley et Kilian Jornet au départ. Hein. Malheureusement pour eux, ils ont dû abandonner. On peut féliciter aussi Thomas Cardin, autre Français qu'on a déjà reçu dans RMC Running, qui signe une magnifique quatrième place pour ses débuts sur le 100 miles. Donc bravo à Thomas, on le félicite. Mais raconte-nous ta course alors, Vincent, je le disais, une ligne de départ prestigieuse. Un mauvais souvenir malheureusement de 2025 avec un abandon et des problèmes dont tu pourras nous reparler, mais je crois que c'est des problèmes gastriques à l'époque. Mais bah, parle-nous déjà de ce départ de course avec les vedettes de la discipline. Quoi. Là, il y avait un sacré plateau au départ.
Ouais, bah c'est vraiment un des éléments qui fait que cette course est de plus en plus intéressante, je pense, même en tant qu'athlète, parce que ben, c'est une des courses sur format 100 miles où il y a le plus de densité. Et ça, c'est cool parce que ça apporte, je pense que ça apporte à la fois pour les spectateurs, j'espère que c'est un peu plus excitant à regarder comme sport, et puis en tant que compétiteur, c'est génial parce qu'on est dans un sport où quand on fait du 100 miles, on ne peut pas s'aligner tous les week-ends sur une course. Donc quand on a la possibilité de retrouver beaucoup d'athlètes de très haut niveau sur une même course, c'est génial quoi. C'est chouette, comme je disais, de pouvoir y prendre part quoi.
C'était la priorité de ton année, je l'ai dit, l'abandon était frustrant pour toi en 2025. À partir du moment où tu as abandonné, tu t'es dit l'an prochain j'y serai, et là je vais revenir, je vais me donner les possibilités de revenir plus fort. Tu disais même d'ailleurs avant la course que tu étais dans la forme de ta vie pour cette course, ça s'est confirmé avec le résultat, le record de l'épreuve, mais c'était ton objectif depuis plus d'un an ?
Ouais, je pense que avec le recul, c'est facile de dire oui, mais je pense sincèrement que même après l'UTMB en 2024, ce projet Western, il m'a un peu intrigué et de plus en plus s'est révélé comme quelque chose qui m'attirait, parce que je pense d'abord et surtout parce que la course me faisait et continue de me faire peur, et j'aime bien un peu cette relation avec tu prends un départ de quelque chose, tu dis mais là j'ai déjà je sais pas trop comment je vais atteindre la ligne d'arrivée. Moi c'est un peu ce qui m'a amené vers l'ultra et qui continue de m'animer, alors même si ça peut paraître je sais pas, ça peut paraître incroyable de dire ça quand j'ai gagné le record, mais
bah oui.
ouais, mais bon, en fait, il y a tellement de paramètres qui entrent en compte que même si, évidemment, si avec l'entraînement, si je me dis bon, le but c'est de faire la Western State et simplement de la finir, bon bah oui, en prenant mon temps, normalement, je rallie l'arrivée sans trop de soucis. Mais aux allures escomptées, c'est pas aussi évident quoi.
Bien
sûr. Donc, en fait, moi, ce qui m'attirait, c'est que je pense que c'est quand même loin de ma zone de confort et peut-être de mes qualités intrinsèques. Et il y a quelques années, je regardais cette course en me disant mais c'est incroyable les vitesses à laquelle ces athlètes sont capables de courir. Moi, il y a pas si longtemps que ça, je me disais mais je pourrais jamais faire ça quoi. Donc c'est un peu ça qui m'a attiré vers ça quoi.
Ça a couru très vite, Johan. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Bah oui, moins de 14 heures, bien sûr.
Ah, ils sont quoi, trois coureurs sous les 14 heures.
Il n'y a jamais eu des chronos aussi serrés dans l'élite, hein, d'ailleurs, dans les temps d'arrivée. Hein.
Ouais. C'est ultra serré, ouais.
Ouais, je trouve que c'est ça, ce que je disais sur la densité. C'est intéressant de voir. Alors effectivement, il y a les conditions du jour, peut-être qu'on en reparlera, qui ont
aidé
vraiment.
C'est un peu plus frais que les autres années, ouais. Tout à fait.
Ouais, c'était la troisième édition la plus fraîche entre guillemets de toutes les éditions de la Western State. Donc on a eu des maximales autour de ressenti, je crois, entre 25 et 30 maximales. Normalement, c'est 15 degrés au-dessus de ça, quoi. Normalement, il fait au-dessus de 40 en ressenti. Ouais. Et clairement, ça a un impact assez important sur la manière dont on peut se pousser et pousser le corps un peu plus loin dans l'effort. Mais ce qui est super, c'est le podium masculin, on se tient en 7 minutes. Thomas Cardin qui fait une course incroyable, il est lui aussi sous le précédent record de Jim. Et le top 10 féminin, il se tient en tout juste une heure. Quoi. Donc c'est cool de voir que même sur 100 miles, le trail progresse vers de plus en plus de niveaux. Et ça fait du bien à notre sport. Hein.
Ah, ça c'est sûr. Ouais, on est toujours impressionné, bluffé par les performances. Est-ce que tu peux nous parler de la première partie de course ? Parce que justement, on l'a dit, gros plateau au départ. ça part fort, ça part vite. Il y a une ascension d'ailleurs dès le troisième mile. Hein, ça y est, il y a une première difficulté qui arrive assez rapidement. Comment tu l'abordes justement? C'était quoi ta stratégie de course au départ?
Ouais, en fait, même dès que tu passes la ligne de départ, tu attaques la première bosse.
Direct.
Il y a 700 mètres de dénivelé dès le kilomètre zéro, dès le mètre zéro. Donc ça fait que les écarts, les groupes se forment un peu très très rapidement. Comme l'an dernier, il y a un groupe qui se détache, un peu plus petit que l'an dernier. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que, alors je pense, ouais, on allait un poil plus vite parce que ça discutait moins. Et il y avait beaucoup de vent au premier sommet et sur la première partie qui est un peu plus montagne. Et en fait, moi, ça m'a surpris, c'est que dès qu'on a passé ce premier sommet, c'était comme s'il y avait un deuxième coup de feu de départ. Et là, c'était top chrono, OK, c'est la course, quoi. Il n'y a plus de blabla. c'était assez impressionnant. En connaissant toutes les allures de référence de cette course, quand on voit quand on commence à connaître les écarts, enfin et les on va dire les temps de passage sur certains ravitaillements, kilomètre 16, kilomètre 30, etc., et qu'on voit l'avance qu'on a sur les temps de référence, c'est à la fois faut être un peu
ça fait peur.
Comment dire, ça fait un peu peur. Je pense que c'est Johan, tu dois connaître ça sur marathon où forcément, tu sais, dans le premier 10 km, premier semi, tu te sens bien, quoi.
Tu sais que c'est
à plus grande échelle, il faut vraiment essayer d'être à l'écoute, quoi. Ouais, à l'écoute de son corps.
Et tu le disais, donc c'est un profil d'ultra qui ne mettait pas forcément en valeur tes qualités naturelles. C'est un profil
qui descend plus que tu montes, hein.
Surtout, tu as, pour grossir le trait, tu as 40% de moins de dénivelé que sur l'UTMB, par exemple, parce que tu es à 5005 sur l'UTMB, tu es à quoi? Tu es à plus de 9000, c'est ça, Vincent?
Ouais, presque 10 000, ouais.
Ouais, presque 10 000, donc voilà, il y a une sacrée différence. C'est fait pour un coureur, taillé pour un coureur comme Jim, qui lui est un excellent coureur, même sur route. Quand est-ce que tu comprends que Jim et Kylian sont en difficulté, d'ailleurs? Kylian avait des douleurs au genou, hein, on le savait, ouais. Ça s'est confirmé assez rapidement dans la course.
Dans cette première partie, donc qui est la plus montagne, un peu technique, il y a quand même des portions un peu techniques, hein, dans cette première partie. Je me retrouve à un moment donné, je rattrape Kylian, donc on a partagé quelques kilomètres ensemble, c'était sympa, on a discuté. Mais effectivement, après, d'ailleurs, tous les deux, on est revenus sur Jim, et on était avec Francesco Puppi aussi. Et en fait, je vois que Kylian, il a lâché le groupe à un moment sans que je m'en rende compte. Donc après, je savais pas si il s'est arrêté pour aller aux toilettes ou quelque chose, mais ouais, après coup, j'ai su qu'il avait mis le clignotant pas longtemps après, malheureusement. Et ouais, c'est vraiment dommage parce que Jim, ça a été la même chose finalement un peu plus loin. Il s'est battu lui aussi avec un genou récalcitrant. C'est dommage que des champions comme ça, des icônes de notre sport, ils puissent pas, participer à la bataille jusqu'au bout quand il y a un plateau comme ça et que les résultats qu'il y a eu, quoi. Parce que c'est sûr qu'ils auraient eu leur mot à dire.
T'as l'habitude, hein, désormais de batailler avec des coureurs aussi forts, des légendes de ta discipline. T'as un nom aussi, toi, aujourd'hui, parce que t'étais vainqueur de l'UTMB en 2024. Quand tu te présentes comme ça sur l'épreuve, t'es, je l'ai dit, dans une forme optimale, tu vises quoi? Tu vises la gagne quand même? Tu vises le podium? Tu vises la meilleure perf possible? Dans ta tête, l'état d'esprit au début, c'était quoi?
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'essaie toujours de... En fait, le premier objectif, c'est d'abord de se dire... exécuter le plan et arriver au bout en ayant vraiment la sensation d'avoir tout donné, quel que soit ce qui est à la fois beau et difficile dans l'ultra, c'est que il n'y a jamais tout qui se passe exactement comme prévu. Forcément, il y a des choses qui sont imprévues et le but de la manœuvre, c'est justement de gérer avec l'imprévu et de prendre les décisions au fil de la course. Le premier objectif, c'était vraiment d'arriver avec la sensation d'avoir tout donné, d'avoir rien laissé, et après de plus en plus, je pense, j'essaye de développer cet attrait pour la compète, quoi. Quand j'arrive sur une course comme ça, j'ai des ambitions aussi de chrono, pas tellement. Enfin, le chrono, il est relatif aux conditions du jour, mais le but, c'est de gagner aussi, quoi. C'est moins. Je pense que ça aussi, c'est moins dans ma nature, mais j'y travaille. C'est aussi pour ça que j'ai fait du cross cet hiver, l'hiver dernier, pour essayer de travailler un peu ce côté juste compète, s'accrocher, relancer, etc.
Parce que même si voilà, sur 200 miles, c'est beaucoup plus long, ça compte. Hein, là, la preuve en est, ça a été une compète de bout en bout. Quoi.
Eh oui, bah oui, on l'a dit, 5 minutes d'écart à l'arrivée.
C'est ça, ouais.
Avec Francesco qui était deuxième. Donc, Johan, tu l'as ressenti dans les pelotons déjà, ou même sur la piste, hein, quand tu étais pistard, tu as des phénomènes, des légendes de la discipline qui sont à tes côtés. Donc au début, tu les regardes un peu avec admiration. Et puis tu sens dans la course qu'ils ne sont pas bien et tu te dis, bah oui, moi je suis à ma place et je bataille avec eux. Et puis bah, à un moment, il faut le dire, tant pis pour eux. Tu n'es pas bien, ouais. Tant pis pour toi, je fais ma course. Quoi. Ouais.
Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas le syndrome de l'imposteur, mais j'étais un peu comme Vincent. Je courais pour moi et pas forcément pour battre les autres, tu vois.
Ouais,
et à un moment, et c'est vrai que j'ai dû switcher un peu cette mentalité parce que si j'avais l'impression d'avoir fait une bonne course et mais fait deuxième. Eh ben, j'étais heureux et j'étais content. Et à l'inverse, si j'avais gagné la course, mais que je n'avais pas battu des références et j'avais l'impression que ça s'était passé moyennement, eh ben, j'étais pas non plus ultra fier de moi, tu vois. Et c'est vrai que des fois, tu dois apprendre aussi à aller à la bagarre, à battre les gars, à moins les respecter et pas seulement courir pour te faire plaisir et juste le résultat importe aussi à un moment donné, le résultat il est important, il n'y a pas que le Bien chemin sûr. Qui va t'amener à l'entraînement, enfin, toute la partie d'entraînement où tu vas kiffer, le jour de la course où tu vas avoir des sensations, tu vas être content de ton chrono et tout, mais à un moment donné il y a la bataille, il y a la place aussi qui compte et c'est vrai que pour le coup le cross c'est vraiment la discipline où le chrono il n'existe pas et ouais. C'est juste de la lutte homme à homme et pour le coup ça c'est vrai que ça te permet de pouvoir passer justement ces problématiques et de switcher un peu son cerveau en mode il faut juste terminer la meilleure place possible et battre les gars quoi, le chrono il n'existe pas.
Alors justement, avant de poursuivre sur le récit et le déroulé de la course, on peut y aller sur ta préparation parce que ça va fasciner Johan et tous ceux qui nous écoutent. Vincent, t'as fait tous les efforts, t'es allé sur cross cet hiver, t'as fait des semaines à plus de 200 km, t'as couru avec des vêtements, plusieurs couches de vêtements pour simuler la chaleur prévue. Ce jour-là, il a fait moins chaud, ça t'a peut-être aidé aussi à maintenir un niveau de performance très élevé. T'as fait une prépa, entre guillemets, idyllique, quoi. Tout s'est bien passé dans ta prépa.
Ouais, j'ai essayé de tout mettre en place. Après, on avait une grosse nouveauté dans la famille cette année, parce qu'on est,
oui.
on est jeunes parents depuis le mois de décembre.
Félicitations d'ailleurs, bien sûr.
Merci, c'est Bravo. Gentil, ouais. Donc,
tu voulais arriver avant le dodo d'ailleurs, et tu t'as réussi, c'est ça.
Ouais, c'était le but, ouais. Non, mais l'entraînement, en fait, et l'équilibre, il passe d'abord. Enfin, je parle de ça parce que c'est ce qui passe avant tout. Et c'est,
bien sûr.
Ça a commencé par une discussion avec mon entourage et notamment ma compagne Camilla, avec qui on savait que le gros objectif c'était de retourner sur cette Western. Ça passait d'abord par une qualification via la course en Italie au Chianti. Avec un bébé à la maison, on a dû adapter quelque chose et s'assurer que. On pouvait mettre en fait les moyens nécessaires à atteindre ces objectifs qui étaient très ambitieux. Donc c'est passé par une progression, on va dire, assez linéaire, mais plus. Je pense que j'y suis allé un peu plus tranquille. Enfin, c'est même sûr, j'y suis allé plus tranquille en course à pied dans l'hiver par rapport à l'an dernier. À la fois parce que sur les premiers mois de la naissance, on avait peut-être un peu de fatigue encore et je voulais pas trop en faire. Mais aussi parce que mon but c'était d'essayer d'arriver peut-être moins en forme en Italie pour la course au Chianti.
Ouais.
C'était un peu un pari d'essayer d'en garder vraiment sous le pied pour les 12 semaines qui séparent le Chianti et la Western States. Parce que l'an dernier, outre les soucis de santé que j'avais qui m'embêtaient en nutrition et qui on finit par abandonner la course. J'ai réglé ça entre-temps. C'était pas que des problèmes à l'effort, c'était aussi des problèmes un peu au quotidien, des soucis. Donc j'ai fait pas mal de régimes d'élimination, des choses comme ça.
Et c'était quoi alors? C'était des intolérances? T'as eu la réponse à tes questions? Tu sais ce que t'avais exactement?
Ouais, c'est difficile à expliquer. Difficile. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs en parallèle. Le souci, si j'essaie de le résumer, c'était ça se traduisait en mon estomac n'arrivait plus à transformer les sucres de manière normale. C'est un gros problème parce que quand on court, on consomme quand même pas mal de sucre. Et le problème était double parce que ça me forçait à m'arrêter pour aller aux toilettes très souvent. Et surtout, je vais dire, ça encore c'est gérable, mais surtout les muscles n'étaient pas alimentés comme ils le devraient. Quoi. C'était problématique. Et on va dire, l'année dernière aux Mondiaux, j'étais encore un peu sur une stratégie adaptée en nutrition pour prendre zéro risque. Et après, dans la saison off, j'ai pu repartir un peu de zéro, retenter des choses et reconstruire une base qui était plus solide. Donc cette année, ça ne m'a pas du tout embêté, presque pas. Ça étant solutionné, l'autre pari, c'était, comme je disais, d'arriver plus frais pour le gros de la prépa Western States. Je pense que ça a à peu près marché parce qu'en tout cas à Chianti, je me suis vraiment pas senti super bien cette année. J'ai mon ticket ric-rac, notamment parce que Andreas Reidetter le refuse, qui finit deuxième devant moi. J'estime que le pari a marché parce que je me suis vraiment senti bien dans les semaines qu'on suivit et j'ai pu monter à des volumes de course à pied que j'avais jamais fait avant, avec des semaines à 230-240 km semaine. Avec pas mal d'intensité quand même, c'est ça qui est rigolo dans ce format de course, c'est que par rapport à des formats plus montagne type UTMB, on court en moyenne un peu plus vite.
Oui, bien sûr.
Et du coup, ça amène quand même, c'est des parcours un peu plus roulants, c'est la vitesse moyenne, elle est quand même augmentée, quoi. C'est sympa. Ouais.
Mais c'est fascinant à raconter, Johan, et c'est un exemple d'intelligence, de tester justement, de pas se présenter dans la forme de sa vie sur le Chianti, sur l'épreuve UTMB, et pour en garder sous le pied, pour pouvoir être très bon sur l'aspect spécifique de la prépa.
C'est quand tu sélectionnes bien un objectif majeur dans ta saison, tu sais que c'est celui-là, et tu sais que les autres sont juste des temps de passage intermédiaires et que il faut absolument pas arriver prêt sur les objectifs intermédiaires et derrière tu peux capitaliser comme il l'a fait cette année ou derrière il a pu, comme il nous l'a dit, mettre un travail de vitesse ou un gros travail de volume aussi. Mais pensez bien que entre le mois de mars et le mois de juin, il y a quand même un grand écart, donc tu peux pas avoir deux pics de forme et arriver en forme au mois de mars et refaire un cycle d'entraînement derrière pour arriver ensuite de nouveau à un pic de forme en juin. Donc c'est là où on apprend de ses erreurs et c'est là où je pense que il a appris de ce qu'il avait fait l'année dernière et du coup cette année ça fonctionne bien. Donc vraiment le conseil pour nos auditeurs, c'est vraiment de se fixer un objectif, le vrai objectif qui doit être l'élément majeur de sa saison, et tout le reste c'est des objectifs intermédiaires. Il faut pas s'y présenter avec le couteau sous les dents, en étant préparé à 100%, affûté à max et tout. C'est juste des compétitions intermédiaires.
Et justement là-dessus, Vincent, c'est une méthode qui te correspond, qui te convient, que tu remettras en œuvre comme ça, de sélectionner l'objectif, d'avoir un objectif majeur sur les saisons et de tout construire là-dessus?
Ouais, après je sais pas, là ça a marché, c'était un pari pris comme ça, c'était aussi parce que on avait ce changement dans la famille avec l'arrivée de notre petite.
C'est vrai.
Maintenant je pense qu'il y a toujours plusieurs chemins pour arriver à un même but, et c'est marrant aussi d'essayer de constamment se remettre en question à l'entraînement et chanter de nouvelles choses, parce que s'il suffisait de faire copier-coller d'une saison pour l'autre sur l'autre pour refaire la même chose,
ça marche
jamais. Facile,
ça c'est sûr. ce serait pas drôle.
Facile. Donc, je pense que moi, je sais qu'une des choses qui continue de me faire avancer, c'est d'apporter de la variété à la fois dans l'entraînement au quotidien, mais aussi dans les objectifs, la manière de construire le calendrier. Donc, je m'interdis rien. Après, on verra, une chose à la fois.
Ça part vite, on l'a dit. Donc, tu te retrouves comme ça dans le groupe de tête. Ça part encore plus fort devant toi. Je crois que c'est Hans, c'est ça, qui se met à filer très fort et à partir sur un rythme vraiment soutenu. Là aussi, tu le disais, l'ultra, c'est de l'adaptation permanente. Tu sens effectivement qu'il faut le laisser partir et que ton rythme à toi, c'est pas le même et qu'il faut en garder un peu sous le pied pour la suite de la course ?
Ouais, effectivement. Je pense que déjà au moment où il parle, on était sur un single assez technique et en vrai, c'est impossible de doubler. Donc, moi, j'étais là où j'étais dans le groupe et je vois juste le gap qui se crée et bah, je ne peux pas faire grand-chose parce que de toute façon, on est surtout concentré là où on met les pieds. Et puis, bah, on est très, très tôt dans la course. Donc, au moment où j'ai les premières infos de temps de passage, je me dis « Ok, on est tous très rapides dans tous les cas. » Donc, il n'y a pas d'urgence à s'énerver. Et ouais, moi, c'était un peu la stratégie. C'était d'accepter d'être, on va dire, d'appuyer dès le début, mais d'essayer de rester patient, quoi, d'avoir cette sensation de un peu de contrôle relatif, à se dire je veux essayer d'en garder le maximum pour le dernier tiers de course. Alors, ouais. C'est compliqué parce que en vrai, on a tous mal à partir de 2-3 heures, les jambes elles commencent à être bien endolories, donc après voilà, c'est juste accepter la relation à la douleur, mais ouais, je pense que j'arrive de mieux en mieux à me mettre un peu dans cette zone où je sais que c'est un peu mon rythme de croisière et après j'ai voilà des données comme le cardio, la puissance à la montre qui me permettent de vérifier des fois quand, dans les montées notamment que je suis pas complètement hors jeu, mais ouais, j'arrive à peu près à me jauger. Ouais.
Tu dis d'ailleurs que tu comprends assez vite en arrivant à Forest Hill, donc on est aux alentours du 100e kilomètre, que le record va tomber, quoi, que vous serez en moins de 14 heures. Après, tu te dis, bon, s'il y en a un qui est plus fort que moi le jour J, c'est comme ça. Mais tu sais à ce moment-là déjà que tu iras au bout et que le chrono sera très solide, quoi.
Ouais, je pense que peut-être un poil plus loin que Forest Hill, je pense en arrivant presque sur le passage de la rivière, donc 20-30 bornes plus loin. Parce que j'ai eu, juste après Forest Hill, j'ai Ryan Montgomery, qui est l'athlète qui finit troisième, qui revient sur moi. Et là, ça m'a fait un peu un déclic, parce que c'est un gars que j'admire pour tout ce qu'il fait. Et je pense que j'étais sincèrement super content de voir qu'il était en train de faire une super course. Et aussi, je pense que ça m'a fait réaliser que peut-être j'étais en train de m'endormir dans mon rythme et que finalement, ouais, j'avais mal partout, mais je pouvais continuer et continuer à pousser. Et d'ailleurs, je lui ai dit, continue sur ce rythme, on va aller les chercher devant, quoi.
Vas-y, ça m'aide, voilà. Parce que Hans était encore en course, parce qu'après il a abandonné, mais Hans était encore en course et Francesco était parti devant lui aussi.
Ouais, après nous, à ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe devant, mais donc des infos qu'on a, on sait qu'il y a Hans et Francesco. Et il se trouve que, on va dire une heure plus tard sur cette section. J'avais redoublé Ryan entre temps, mais je rattrape Hans qui marchait et qui allait abandonner malheureusement. Après lui avoir tapé dans la main et tout et échangé 2-3 mots, ok, je me dis ben là il n'y a plus que Francesco devant, quoi. Donc,
et voilà.
Et je pense que c'est à ce moment-là où en fait c'est le mix de j'avais toutes les infos de temps de passage, je voyais que on continuait d'avancer sur un rythme solide et je commençais à me dire qu'effectivement il n'y avait pas de raison que, enfin ouais, j'avais mal partout, mais à moins de faire une énorme erreur, de tomber ou quoi que ce soit, je savais que j'allais rallier l'arrivée. Et là, je commençais à m'amuser à faire des maths, à dire, alors là, au pire du pire, si je fais cette section avec cette vitesse moyenne, je fais un chrono en 14-10. OK. Voilà. C'est... enfin, en gros, limite...
tu calculais.
C'est comme un marathonien, comme toi, Yodu. Ouais. Hein, quand tu regardes ta montre et que tu es au semi et que tu te dis, bon, alors là, si l'allure tient, ça va faire ça, ça va faire ci, voilà, OK. Ouais.
C'est donc bon, ouais, je pense que c'était grisant de voir que finalement, avec alors j'avais pas les infos derrière sur les autres athlètes, mais au moins je savais que Francesco et Ryan, qui sont deux gars que j'apprécie beaucoup, ils étaient en train de faire une super course. Et c'est à ce moment-là où je me mets vraiment en mode c'est la compète, mais c'est pas on s'en fout parce que le but c'est de gagner, mais c'est le meilleur de nous gagne, quoi.
Il y a tellement d'admiration entre vous que tu veux pas non plus le malheur des autres, quoi. Tu les rattrapes, mais c'est le jeu, c'est la course, et vous savez, enfin vous savez mieux que personne qu'est-ce que ça représente comme effort physique de toute façon.
Ouais, c'est clair.
Ouais. Tu le rattrapes à combien de kilomètres de l'arrivée, Francesco, au final, Francesco Puppi, l'Italien.
Je sais pas exactement. J'ai même pas regardé.
À 20 bornes de la fin, je crois, non.
Ouais, dans ces eaux-là, il doit rester 20, à peu près 20, 25 bornes. Ouais, donc c'est sûr qu'au moment où je le rattrape, après j'avais un peu des infos sur le gap qui se resserrait et que je revenais sur lui, quoi. Donc je veux dire, c'est pas une surprise au moment où j'arrive sur lui, parce que j'avais entendu un peu les écarts qui se réduisaient. Mais pareil, là, on échange quelques mots, on s'encourage
Et puis, bah, moi, j'essaie de maintenir mon effort parce qu'en même temps, à ce moment-là de la course, je peux pas trop me permettre de l'attendre, quoi. Donc,
Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Parce que là, tu prends la tête, c'est comme sur une course cycliste. Là, tu te dis quoi? Bon, allez, ça y est, si je tiens jusqu'au bout, elle est pour moi. Tu sens son souffle parce qu'il est pas loin et qu'il y a que 5 minutes d'écart à l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là, à ce moment-là?
Ouais, non, je pense que là, bah, c'est sûr que ça doit déclencher encore autre chose psychologiquement ou. Où tu te dis, ouais, je prends la tête maintenant, c'est impossible, je peux pas la lâcher, quoi. Donc, t'essayes d'aller chercher au fond du réservoir de ce qui reste et surtout de pas trop faire attention à tous les signaux de douleur qui arrivent de partout. Après, je pense que, c'est vrai que j'en ai discuté avec Francesco, c'était un peu pareil pour lui, et c'est pour ça que les écarts sont pas élevés à l'arrivée. C'est qu'on arrivait quand même à pas mal courir sur le plat et les montées. Ce qui fait vraiment le plus mal, c'est les descentes. Il y a 7000 de dénivelé négatif sur toute la course. Et au final, on arrivait à avancer correctement. Enfin, moi, je me sentais pas trop, trop mal sur le plat et dans les montées, finalement. Donc ça, c'est un point positif de valider la prépa aussi et de se dire que musculairement, on avait... Ouais, c'est cool quoi, de pouvoir se battre jusqu'au bout comme ça. Quoi.
Mm. Ouais, c'est magnifique même. Et jusqu'à la fin de la course...
C'est que la prépa a bien été faite. Ouais.
Voilà, ça c'est sûr. Tu le sens derrière toi? Il y a des moments où il se rapproche, ça fait un peu le yo-yo, ou c'est un écart un peu constant? Comment ça se passe à ce moment-là?
Pendant la course, moi j'ai zéro info. Donc,
Une fois que tu le dépasses, une fois que tu l'as dépassé.
Ah ouais, non, une fois que j'ai dépassé, j'ai pas les infos non plus, encore moins, dire, quoi. Parce que, autant quand t'es derrière, si tu arrives à un ravito, tu peux demander. Alors, est-ce que t'auras une info fiable? Je sais pas, mais tu peux demander. Par contre, quand t'es premier, personne a les infos, quoi. J'essayais de me focaliser sur mon effort et de me dire que, de toute façon, dans tous les cas, je donne tout, quoi. En re-regardant après coup, je crois que j'ai augmenté l'écart en fait dans la section où je l'ai doublé et que après ça s'est à peu près maintenu sur l'arrivée. Je dois prendre encore un peu de temps sur la dernière section, mais pas énorme, ce qui montre bien qu'il a ça s'est pas joué à grand chose et lui aussi il a poussé et Ryan encore plus parce que Ryan revenait sur Francesco aussi, quoi. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, les écarts. Alors ça se compte quand même en minutes, c'est plus élevé que sur la piste, mais
c'est pas le même temps d'effort.
Ouais, c'est ça. Pour proportionnellement,
temps d'effort. 4 minutes sur 13 heures et 46 d'effort.
C'est monstrueux, bien sûr.
Ouais, ça fait à peine 1 km sur 160.
Non mais Johan, c'est bluffant. Dans un instant, on va raconter avec Vincent l'émotion de l'arrivée, mais le niveau d'effort là,
Ce qui est bluffant, c'est de pas savoir exactement.
Bah oui, bien sûr.
Tu sais que t'es chassé, tu sais que t'as du monde derrière, mais tu sais pas où ils sont.
C'est sûr, c'est dingue. Et oui, parce que je le disais, cette arrivée elle est mythique, t'es sur une piste d'athlée à Auburn, c'est une ambiance un peu particulière, faut que tu nous racontes ces derniers mètres. Tu t'es fait un demi-tour de piste quoi, pour terminer,
ça
c'est
beau quand même.
T'as accéléré quoi, t'as mis les pointes quoi, limite.
C'est sûr, c'est un événement vraiment... vraiment particulier, c'est en fait, même si ça rayonne énormément dans notre sport parce que c'est l'épreuve de 100 miles la plus ancienne
et la plus mythique, on dit,
ça reste en fait, c'est vraiment, je sais pas, en France on dirait c'est une course de village quoi, c'est vraiment c'est la communauté essentiellement basée à Auburn qui s'occupe de l'événement toute l'année. C'est les mêmes personnes qui sont à chaque poste de ravito d'une année sur l'autre. Moi j'ai plein de bénévoles que j'ai reconnus par rapport à l'an dernier et qui m'encourageaient, qui étaient super contents de voir que j'avais une meilleure course. Et quand tu arrives à la fin, même avant d'arriver sur la piste, tu traverses un peu le quartier pas loin de la piste et il y a tout le monde qui est dehors, qui t'applaudit. Tu sens que la communauté, ils aiment vraiment cet événement. Et sur la piste, pareil, c'est pas les foules que tu vois à Chamonix, mais proportionnellement, c'est vraiment chouette de voir ça. Surtout que t'as vu personne sur pratiquement l'intégralité du parcours quand même. Donc, t'arrives et il y a tout ce monde sur la piste. Et il y a 300 mètres à faire, c'est un peu plus que le demi-tour.
Ah, quand même, presque un tour entier, quoi. Ouais, c'est ça.
Il y a un tour.
Mais c'est intéressant de comparer les émotions, Vincent. intéressant parce que je me souviens du choc en 2024. Tu vis ta course de rêve, tu es chez toi, sur l'UTMB, toi qui viens d'Annecy, qui a grandi là-bas et qu'on découvre aux yeux du grand public, hein, parce que tu étais encore considéré comme athlète amateur, entre guillemets, à cette époque-là. Là, tu arrives en tant que, justement, vainqueur de l'UTMB 2 ans plus tard sur la Western. L'émotion n'est pas vraiment la même ou est-ce que c'est complètement différent? Comment tu définirais la différence?
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que indéniablement sur l'UTMB en 2024, il y avait un avantage que la plupart des athlètes, on va dire favoris, élites, n'ont pas, c'est que vraiment personne m'attendait et que du coup j'avais pas cette pression supplémentaire que ton nom est cité dans les favoris et voilà. Et maintenant, ça a apporté une émotion forcément incroyable à l'arrivée quand même. Là, je pense que il y avait à la fois le fait de boucler la boucle par rapport à l'an dernier et puis se dire que l'UTMB, je me suis préparé du mieux que j'ai pu et j'ai mis énormément de travail aussi. C'est arrivé... je sais pas, je pense que là, avec la Western, il y avait plus de... J'avais vraiment cet objectif dans le viseur depuis un an et demi, avec un peu plus spécifiquement en tête l'idée que le but, c'est de gagner, quoi. Quand tout s'aligne comme ça et que... après, on peut le dire aussi, hein, c'est depuis que j'ai un contrat d'athlète, ça fait partie de mon job, quoi, de courir. Ça compte aussi. Et puis, je pense que comme à l'UTMB, en fait, c'est ce qui est spécial et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette course aussi, hein, c'est que, comme on le disait, j'ai vécu en Californie pendant quelques années. Ma compagne Camila est originaire de Californie.
Des amis californiens étaient là au bord du parcours, ouais, pour t'aider aussi.
On avait plein d'amis. J'ai de la famille qui habite juste à côté de là où finit la course. Et vu que c'est un événement qui est sponsorisé par Oka, j'avais aussi plein de collègues de travail qui étaient là. Donc ça cochait de la même manière que ça avait été le cas un peu à Chamonix. Ça cochait plein de cases qui font que les émotions, elles sont encore décuplées. Ouais.
T'es important, hein, chez Oka, parce que t'es à la fois ingénieur, égérie et tout ce qu'il faut, quoi. Ça, c'est beau, quand même. Hein. Ça, c'est...
tout ce qu'il faut. Ouais. Ah ouais, vainqueur des grosses cours partenaires.
Voilà. J'aide à confectionner les modèles et en plus, je les fais gagner sur les plus grands trails au monde, quoi. Ça, c'est bon.
Après, il a démonté l'arche d'arrivée. Il a rangé le stand.
Non, mais Johan, on peut se dire que ce sont deux émotions complètement différentes entre gagner comme ça, aller chercher cette victoire mythique à l'UTMB chez soi, comme ça, quand on n'est pas attendu. Mais là, c'est tout aussi fort d'aller gagner quand on est attendu, quand on s'est fixé l'objectif, qu'on s'est donné tous les moyens d'y parvenir et que ça se valide sur la ligne d'arrivée, quoi. Ça, c'est magnifique aussi.
Ouais, parce que la première fois, t'as pas la pression quand t'es pas attendu. T'arrives, comme il l'a dit, bon, il est à la maison, il connaissait le parcours, il est pas attendu, les favoris, il est double 1-1, puis il gagne l'épreuve aux yeux de tous. Et du coup, après, ton statut change, tu deviens athlète à 100%, et après, il faut de nouveau confirmer, et c'est là où c'est un petit peu plus dur. Et c'est là où, justement, le fait de confirmer sur la Western, de bien la préparer, de faire les choses bien, et de s'imposer sur l'une des plus grosses, sur un des 4 plus gros trails au monde, ça valide sa performance. Après, il y a eu d'autres, il y a les podiums au Chianti ou autre, mais gagner la Western, c'est au même niveau que gagner l'UTMB. Ouais. Et là, pour le coup, il était attendu, il y avait tous les plus forts.
Malgré tout le talent qu'on a, aucun Français ne l'avait gagné, donc ça, c'est magnifique. Ouais. À jamais le premier.
François avait fait 2, je crois, d'AN.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est exceptionnel. On salue d'ailleurs François Aden parce qu'au moment où on enregistre, il vient d'exploser le record du GR20 en Corse. Donc bravo François, tu l'avais annoncé, tu l'as réalisé. Donc ça aussi, Vincent, c'est peut-être un défi qui t'attend un jour, mais la traversée de la Corse du nord au sud, ça peut être un défi qui peut peut-être te botter, pourquoi pas.
Pour moi, le GR20.
Ah ouais, c'est différent, c'est sûr. On rappelle son record d'ailleurs, parce que je l'ai sous les yeux, 29h46. Mon Dieu, quelle horreur.
Bravo François.
Ah ouais, bravo, félicitations. Ah ouais. Vincent, ce qui est
génial...
Toi,
tu veux le faire en 15 jours ?
Ouais, nous on ira doucement, Yodu, t'inquiète. Wow, une semaine, 10 jours, on essaiera. Oui, Vincent, je voulais dire, Tu as une personnalité particulière. Nous, on t'adore et puis on t'a découvert après l'UTMB, mais tu n'as pas changé ta façon de fonctionner. Tu n'es toujours pas un adepte des réseaux sociaux. Ça nous fait un point commun, comme ça. mais c'est vrai, là-dessus aussi, peu de choses ont changé. Tu es resté le même, malgré la notoriété grandissante et cette victoire qui est arrivée à Chamonix. Est-ce que tu vas conserver ce mode d'emploi, entre guillemets, sur la suite de ta carrière ? Tu as 32 ans aujourd'hui, tu vas devenir de plus en plus attendu. Est-ce que tu vas conserver ces habitudes-là ?
Ouais, je pense que j'essaie de pas trop me poser ces questions parce que c'est pas, enfin je veux dire, je fais pas, j'ai pas en mode une stratégie. Je veux vraiment essayer de faire ça. Je peux pas non plus dire que après ce qui s'est passé à l'UTMB en 2024, je veux dire, c'est pas innocent quoi. Ça peut chambouler pas mal de choses quoi. Mais je pense qu'au contraire, j'ai essayé peut-être de mettre un point d'honneur à garder le rythme de plein de choses qui font que mon quotidien et celui de mes proches, il est ce qu'il est, et surtout à entretenir en fait la passion que j'ai pour ce sport sans changer trop de choses, que ça soit dans l'entraînement, dans l'endroit où je m'entraîne, les rythmes quotidiens et tout. Le fait d'essayer de mettre de l'attention à toutes ces petites choses du quotidien, ça fait partie de la démarche de performance quoi. Je pense que depuis ce moment-là, on est un peu en phase avec mon entourage à pas chercher à changer du tout au tout, et plutôt rester dans la continuité de ce qui fonctionne, et surtout la manière avec laquelle on peut prendre du plaisir, que ça soit moi dans l'entraînement, le partage avec les proches quoi. Quand on
gagne deux majeurs comme ça, deux majeurs du circuit trail mondial, est-ce qu'on a envie d'aller chercher les autres? Est-ce qu'on pense déjà à ça? Est-ce qu'il y a une course particulièrement qui te fait rêver? Ou est-ce que tu es pour l'instant encore dans la digestion et tu te laisses un peu de temps pour réfléchir à tout ça?
De toute façon, je me laisse du temps et j'essaye de plus en plus les périodes après course de profiter.
Bah, t'as raison.
C'est rare en fait dans notre sport d'avoir vraiment des périodes où on s'entraîne pas, où le quotidien il est pas dicté par il faut que j'aille faire cette séance à tel moment et du coup il faut qu'on organise ça ou quoi. Donc j'essaye de plus en plus vraiment de profiter de ces périodes là. Après. C'est sûr que le cerveau il commence à se dire quels vont être les prochains projets ou quoi, sans même repartir à l'entraînement, mais plus y réfléchir. Ouais. Et pour être honnête, on risque de décevoir. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle des choses, ni la Hard Rock ni la Réunion me font autant rêver entre guillemets que l'UTMB ou la Western.
Bah oui.
Parce que j'ai
c'est
pas
lié à ton histoire
autant...
aussi.
Ouais, voilà, oui. J'ai pas autant de liens avec ces courses quoi.
Bien
ça
sûr.
Veut pas dire que j'irai pas, hein, mais en tout cas si sur le format 100 miles s'il y a deux courses qui continuent moi de me faire rêver, c'est ces deux courses là. Je ne sais pas encore ce que ça voudra dire pour la suite. Quoi.
Mais c'est un sacré message que tu envoies, Yodu, c'est de dire prenez le temps de digérer vos objectifs principaux. Là, vous sortez de votre marathon, oui. C'est pas la période, mais d'un objectif important. Je pense à tous ceux qui s'élanceront sur les différentes épreuves de l'UTMB à la fin du mois d'août. Prendre le temps de digérer, de profiter avant de repartir et de se lancer déjà un nouveau défi. C'est facile à dire. Pas toujours facile à faire parce que souvent on reprend le dossard trois jours après la course, mais c'est important de.
Et oui, tu reçois le mail. Les orgas, ils t'envoient un mail 48 heures après.
Donc physiquement et mentalement, c'est important de mettre pause parfois, Yodu.
Non, mais que la course soit réussie ou loupée, je pense qu'il faut prendre cette période de recul qui est nécessaire pour pouvoir analyser la préparation et la course. Quand ça s'est très bien passé, c'est pareil, tu dois analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, parce que malgré tout, il y a toujours des petites choses à améliorer. Et à l'inverse, quand tu t'es loupé, il ne faut pas dire « j'ai loupé mon marathon, ce n'est pas une distance pour moi, je ne vais plus en entendre parler, je n'en fais plus jamais de ma vie, maintenant je vais faire autre chose. » Non, il faut prendre le temps de digérer, il faut se reposer, il faut laisser le cerveau un peu le temps qu'il se, lui aussi prenne le temps de, d'absorber toute la prépa et toute la cohue de la course, et tu peux tirer des conclusions comme ça quelques semaines, et après pour retrouver l'envie, bah, effectivement une fois que tu as de nouveau envie de courir, tu peux aller courir, tu peux reprendre un dossard, tu peux te remettre des objectifs, mais non, il faut jamais rien faire à dans les quelques jours suivant une course, surtout de ces ampleurs-là, que ça soit un marathon et des ultras de, ou des trails de cette distance. Effectivement, faut laisser le cerveau un peu se reposer et après bien analyser tout ça avec, bah, avec son entraîneur ou pas, mais être en capacité d'analyser, ouais.
T'as envie de courir aujourd'hui, Vincent, ou pas là, pas tout de suite?
Bon, j'ai été courir ce matin, ouais.
Ah, quand même.
Ok. Après, moi, je sais que. Mais après, j'aime pas partager tout mon entraînement ou quoi. Même avec mes proches, ça fait un moment que j'ai pas posté sur Strava. Mais, okay. Mais je. Enfin, tu vois, par exemple, ce matin, je cours à. Alors pour plein de gens c'est rapide, hein, mais tu vois, je cours à peine à 12 à l'heure, quoi.
Oui, voilà.
Donc 12 à l'heure, voilà, c'était
c'est
pour
ton allure, c'est moins western, de ton allure western, voilà, c'est ça.
Exactement. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait un footing de 45-50 minutes au bord du lac à Annecy pour parce que ça me permet aussi de tester un peu on va dire l'état de la mécanique, l'état des muscles et mais c'est pas encore dans une démarche de OK, ah, j'ai cette séance à faire aujourd'hui parce que demain il y a ça, etc.
Oui, d'objectif.
D'ici la fin d'année, tu t'es fixé un ou deux objectifs un peu intermédiaires, un peu cool, ou même pas, tu es même pas à ce stade-là?
J'ai rien de fixé, non, pour l'instant. Et honnêtement, c'est vraiment pas la langue de bois ou pas vouloir. Je sais vraiment pas. Et ce que je sais, par contre, c'est que j'ai envie de. Donc ouais, ça répond aussi à ta question, c'est que j'ai envie de retourner à l'entraînement. Ouais. Et j'ai notamment envie de d'aller en montagne et de profiter des semaines, des mois qui sont devant de l'été pour passer du temps en montagne, aller faire des randonnées, aller faire des sorties un peu plus longues avec des bâtons.
T'as un porte-bébé ou pas?
c'est marrant que tu demandes, je viens d'en trouver un sur le bon coin. Non, c'est ma compagne qui en a trouvé un sur le bon coin et je suis allé le chercher à midi. Donc tu vois.
Magnifique. Voilà. Donc la petite sera avec toi pour les balades, excellent.
Exactement.
Crac.
Donc
tu vas l'intégrer à l'entraînement, ça.
Ouais, c'est ça. Et après, okay. Je pense que notamment après une prépa Western States où c'est différent, c'est un peu moins de très raide et plus des parcours roulants, ben ça va faire du bien de ressortir les bâtons, d'aller faire un peu plus de haute montagne. Donc c'est surtout ça qui fait envie. Je pense que oui, j'aurai le temps et j'aurai l'envie de remettre un dossard, c'est sûr, d'ici la fin de l'année. Je sais pas encore quand et comment ça se fera.
Oka, c'est le Neymar du semi-marathon. Tu veux pas venir nous voir au moment du semi au mois de mars, non? Ça t'intéresse?
Ah bah oui, c'est en mars.
Si, ça fait deux ans. Ça fait
pourquoi
cette
pas
année,
alors,
l'an dernier,
faire le Chianti.
Bah oui, viens
mais
avec nous.
C'est ça, c'est que ça fait deux ans que c'est deux semaines avant Chianti et que je me dis, ça fait très envie, mais je pense que c'est une très mauvaise idée.
Ah ouais, bah écoute, tant pis. Hein. T'as dit qu'il fallait tester des trucs. Bah voilà, teste des trucs.
L'année prochaine, a priori, j'ai pas besoin de retourner au Chianti si je veux retourner sur la Western States. Donc
tu vois.
C'est possible. Là,
j'aimerais bien que tu nous rendes visite. Ça me ferait plaisir de t'avoir en physique avec nous, que tu nous claques un chrono monstrueux là, sur semi. Là. Ça pourrait être sympa.
Ouais, m'avance pas trop non plus, je sais pas.
non, mais évidemment, c'est toi qui décides. Tu as prévu d'aller voir les copains à l'UTMB à la fin du mois d'août quand même? Ouais.
Ouais, c'est sûr, j'y serai. Bah, on habite à Annecy. C'est sûr qu'il y aura plein de choses à y faire. J'ai mon frangin qui est sur la TDS, donc
magnifique. J'ai pas choisi la plus facile.
Okay. Non, il aime pas trop ça, choisir la plus facile. Ouais, je sais pas d'où on tient ça, mais
famille.
Non. Puis on a toujours plein d'amis qui sont dans la vallée à ce moment-là. Donc ouais, on y sera. Ouais.
J'ai quand même un service à te demander, Vincent. C'est que nous, on y sera toute la semaine. RMC Running aura un plateau délocalisé. Est-ce que tu peux venir nous voir, ou plutôt voir Johan Durand, notre néo-trailer, qui aura besoin de conseils, voilà. C'est une pratique qui l'intéresse. Alors, okay. On va faire une grosse OP avec Johan sur ce marathon de Valence en fin d'année. Donc là, il va falloir qu'il se concentre, qu'il soit focus sur la course sur route. Mais si tu peux passer nous voir en plateau et donner quelques distiller quelques conseils comme ça,
de conseils, ouais.
À Yodu sur le trail, voilà, ce serait avec grand plaisir. Ce sera un moment d'échange assez sympa, je pense.
Mais je pense que ouais, c'est déjà, il y a pas d'obligation à basculer sur le trail. Hein,
ah non, mais parce qu'il le veut.
Si t'en as envie, après, oui. Je pense que il y a ce qui est génial avec avec ce sport, c'est qu'il y a plein de manières de le pratiquer, quoi. On parle souvent, voilà, moi je fais du 100 miles et c'est des courses qui sont déjà très très longues, très extrêmes, mais il y a des formats beaucoup plus courts, il y a des formats qui sont plus ou moins techniques, et il y a des formats qui conviennent très bien à des athlètes qui ont l'habitude de la route ou la piste, notamment typiquement le week-end avant la Western State, au même endroit, il y avait une course qui s'appelle Broken Arrow en Californie, et sur le format vertical, donc c'est pas un kilomètre vertical, il y avait moins que 1000 mètres de dénivelé, mais c'est un format qui est globalement que montant. Et en fait, on a vu plusieurs athlètes qui viennent du marathon, y compris des athlètes de niveau olympique, qui se sont alignés au départ. Et je trouve que c'est un format super intéressant parce que c'est un effort qui dure à peu près 30 minutes, donc c'est l'équivalent d'un 10 km pour les meilleurs. Et il n'y a les contraintes de descente qui fait que souvent, pour ceux qui n'ont pas l'habitude,
c'est mal au quadriceps. De la technique,
Exactement. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de format monté sur les semaines de l'UTMB, mais par contre, il y en a plein d'autres partout en France. Donc, ça peut être ça mon conseil pour une première expérience en
trail. Et voilà, déjà un conseil qui tombe. Pam, magnifique. Bon. Et Vincent, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Donc, merci pour ta disponibilité. Récupère bien de ce magnifique exploit. Vainqueur de la Western States, le premier vainqueur français de cette épreuve mythique. Record de l'épreuve qui plus est, en moins de 14 heures. Tu embrasses Camilla et la petite, et puis tu prépares le porte-bébé, hein, surtout, parce que là, ça va te servir. Hein. Sur les jours et les semaines qui viennent, ça va sortir, voilà. Et la casquette et la crème solaire, surtout, pour l'enfant. Merci Vincent, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi.
Merci à vous, merci pour l'invite.
Et je rappelle donc que nous serons bien présents sur l'UTMB, toute la semaine UTMB. Le grand Johan Durand sera là avec sa mèche inimitable. Donc venez nous rencontrer si vous êtes sur place, que vous soyez coureur ou accompagnateur. On sera ravis de vous accueillir. Vous aurez le détail sur nos réseaux sociaux. Merci à Vincent Bouillard. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.